La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Au début des années 2000, arrive en France une nouvelle discipline dans le champ de l'éducation, la neuropédagogie, une approche nouvelle pour la science de l'école. Si notre cerveau nous permet d'apprendre, de mémoriser et de construire notre pensée, la neuropédagogie s'intéresse justement aux capacités et aux contraintes du cerveau qui apprend. Le but, expliquer entre autres pourquoi certaines situations d'apprentissage sont plus efficaces que d'autres. Avec mes invités, nous allons voir comment on peut améliorer les méthodes d'enseignement en s'appuyant sur les connaissances autour du cerveau et lorsque les neuro science s'invite dans l'éducation, cela fait aussi parfois grincer des dents. C'est le dossier de l'émission avec vos messages et vos questions. Franceinter.fr et le mot-clé la TAC. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Aujourd'hui, à la Une de la Science, il sera question de carapace et de bec.
Et oui, puisqu'on va parler de l'histoire de l'apparition des tortues sur la Terre avec la découverte d'un très beau fossile en Chine daté à 230 millions d'années.
Et c'est Fanny Bouillon qui réalise cette émission préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà, la neuropédagogie, c'est donc le dossier de l'émission dans un instant avec mes invités que je salue. Pascaline Citron, créatrice du portail éducatif Léa.fr et Olivier Houdet, professeur de psychologie. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue Olivier Houdet, c'est vous qui avez introduit ce terme de neuropédagogie en France au début des années 2000. Ça veut dire quoi exactement?
C'est l'exploration du cerveau des élèves et surtout la prise en compte de la connaissance des lois de l'apprentissage dans le cerveau, dans les réseaux de neurones, pour l'école, en classe, pour apprendre à lire, écrire, compter, penser, aussi respecter autrui. Pour tout cela, il faut un cerveau. Et jusqu'il y a quelques années, on le savait, mais on ignorait le fonctionnement du cerveau. Et la révolution était technologique, l'imagerie par résonance magnétique, fonctionnelle et anatomique, qui appliquée aux enfants, comme en effet on l'a fait dans mon laboratoire du CNRS pour la première fois en France il y a une dizaine d'années, nous permet de tenir compte de ce qui se passe dans la tête des élèves.
Ben, ça
et
nous
là,
intéresse,
c'est une révolution.
Vous allez nous dire ce que vous voyez dans la tête des enfants. Pascaline Citron, est-ce que les enseignants ont accueilli à bras ouverts les neurosciences à l'école? Parce qu'il ne faut pas se le cacher, ça fait aussi grincer les dents, comme je le disais tout à l'heure.
Il est certain que ça fait grincer un peu des dents, parce qu'ils peuvent avoir une certaine peur qu'on leur impose, ou une certaine pédagogie qui serait trop liée, trop réductrice.
Que la science vienne
s'immiscer dans les sciences de l'éducation. Donc il y a forcément un peu de grinçage de dents, mais en règle générale, je pense vraiment qu'ils sont au moins intéressés par le sujet, parce qu'on peut nier que quand on a envie de faire progresser les élèves, et quand on a envie de faire progresser la pédagogie, il faut savoir comment l'élève apprend. Et tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant dans les neurosciences nous permet vraiment de mieux connaître tout ça.
Bon, et vous n'êtes pas que du côté des neurosciences, puisque vous connaissez bien le métier d'enseignant et ça vous permet justement d'avoir une vision intéressante. On va en parler avec vous. On attend les messages des auditeurs pour les questions et les critiques. Pourquoi pas, franceinter.fr, le mot-clé l'attaque, vous y répondrez dans un instant. A tout de suite. Qui du bec ou de la carapace est apparu en premier chez les tortues? Axel Villard, je lis votre petit mot. Vous vous posez quand même de drôles de questions à la Une de la Science parfois.
Mais c'est une question importante, Mathieu, vous allez voir, car les rares fossiles retrouvés sont assez contradictoires sur le sujet. Le dernier est publié la semaine dernière par une équipe chinoise et magnifique. Un beau squelette de lézard de 2 mètres de long, avec une longue queue, un corps en forme de tonneau et un tout petit bec.
Comment ça en forme de tonneau alors?
En fait, il a de très larges et longues côtes, prémices d'une carapace. Ça lui fait une forme de baril. Il est daté à 230 millions d'années et pour le détailler, nous recevons par téléphone Jérémy Anquetin. Bonjour.
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 Vous êtes paléontologue au Jurassica Museum de Porrentruy, c'est en Suisse, et spécialiste des tortues fossiles. Alors, ce fossile nommé Erinkokelis, si je le prononce bien, est un peu une aubaine pour vous, tant vous avez peu de fossiles à étudier, c'est ça, hein?
Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que les premières phases de l'évolution qui va mener aux vraies tortues telles qu'on les connaît actuellement avec une vraie carapace de tortue, en fait, on a très très peu d'indices. On est sur une période qui s'échelonne de la fin d'une période qu'on appelle le Permien, il y a environ 260 millions d'années, jusqu'à la fin du Trias, il y a environ 210 millions d'années. Donc sur 50 millions d'années, on a seulement 4 ou 5 fossiles. Donc voilà, on a que juste quelques brides d'informations pour essayer de comprendre les phases d'acquisition des différents caractères qui vont mener à cette vraie carapace de tortue.
Ça veut dire quoi, Erinkokelis, Jérémy Anquetin?
Alors c'est Eorhynchocoelis, du coup c'est la première tortue avec un bec, si vous voulez.
En fait. Alors ce qui est étonnant avec ce fossile, j'ai dit le lézard, mais c'est qu'il n'a pas de carapace du tout pour l'instant. Pourtant, on le rattache au groupe des tortues.
Oui, alors on parle de tortue souche. Du coup, on est à la base, en fait, à la racine de ce qui va donner les tortues vraies, qui sont en fait les tétrapodes qui ont une carapace de tortue. Donc ça apparaît qu'au Trias, 210 millions d'années. Voilà, on est dans le groupe qui va mener à ce groupe-là, en fait, si vous voulez.
Alors, qu'est-ce qui différencie, vous l'avez dit tout à l'heure, les carapaces, par exemple, des tatous, des pangolins ou même de certains dinosaures à celles des tortues?
Oui, alors il y a beaucoup de vertébrés qui ont inventé ou qui ont développé une sorte de carapace au cours de l'évolution, si vous voulez. Généralement, ce sont des carapaces qui sont avec une composante osseuse, c'est-à-dire qu'il y a une partie du squelette qui va former la carapace. Le plus souvent, ce qu'on va rencontrer, par exemple, chez les crocodiles, aussi chez les tatous, chez les dinosaures que vous avez mentionnés, ce sont des ostéodermes, c'est-à-dire des ossifications dans la peau, qui vont plus ou moins être coalescentes ou fusionnées pour former une sorte de protection de carapace osseuse. Chez les tortues, on a une configuration qui est complètement différente, en fait, puisque c'est le squelette lui-même, au moins certains éléments du squelette qui vont se modifier et se transformer pour former cette carapace. Donc typiquement, la partie dorsale de la carapace des tortues, elle est formée en grosse partie par les vertèbres dorsales et les côtes. Donc une tortue, si vous voyez un squelette de tortue, en fait elle a pas de côte, ils sont dans sa carapace.
Ah, c'est drôle.
Elle est vraiment transformée. Et puis le plastron, la partie ventrale de la carapace, est aussi dérivée en grosse partie du squelette. Une partie de la ceinture pectorale, en fait, l'épaule si vous voulez, pour parler vulgairement, certains os de la ceinture pectorale vont former le plastron, et puis le reste s'est formé en grosse partie par des côtes ventrales. En fait, les reptiles ont des côtes ventrales qu'on appelle des gastralia et qui sont transformées chez les tortues pour former ce plastron.
Est-ce qu'on a une petite idée de l'histoire évolutive de cette apparition? À quoi ça a servi d'avoir des côtes de plus en plus grosses et de plus en plus dures?
C'est une des vraies questions, c'est ça en fait, c'est de savoir pourquoi les premières tortues ont développé une carapace. Généralement, on considère que chez les tortues vraies, c'est-à-dire celles avec une vraie carapace, c'est un bon moyen de protection. C'est assez clair. Par contre, l'origine évolutive des premiers changements au niveau du squelette pour mener à cette carapace, là, on n'est pas très clair. Chez les premières formes, donc là, faut remonter vraiment au Permien, il y a 260 millions d'années, c'est une forme qui s'appelle Eunotosaurus, qui vivait en Afrique du Sud, et là, c'est un petit lézard à côte élargie. Donc faut imaginer vos côtes où elles sont plus ou moins à section ronde, circulaire, et là faut imaginer des côtes qui sont vraiment aplaties dorso-ventralement et qui sont assez larges. Et a priori cette forme c'était une sorte de lézard fouisseur, c'est-à-dire qu'il vivait dans des terriers, qui creusait des grandes galeries, etc. Et ces côtes élargies seraient une adaptation au mode de vie fouisseur en partie. C'est principalement pour attacher les muscles de la ceinture pectorale qui sont très développés pour permettre aux lézards de creuser dans le sol sec, si vous voulez. Et puis ça permet de rigidifier aussi le tronc, qui est aussi une caractéristique qu'on retrouve chez les formes fouisseuses. Donc a priori, voilà, les premières étapes seraient liées à un mode de vie qui est complètement différent de ce qu'on trouve chez les tortues actuellement. Et c'est seulement après que ces caractéristiques ont été réutilisées, si vous voulez, pour former la carapace des tortues.
Alors, il est temps, Jérémy Anquetin, de vous poser la vraie question. Est-ce que c'est le bec ou est-ce que c'est la carapace qui est apparue en premier?
Ça dépend. en fait, cette forme, elle est un peu rigolote parce qu'ils disent que c'est une forme à bec. Ces tortues-là, ces premières ancêtres des tortues, si on veut parler comme ça, ils ont encore des dents. Et cette forme-ci, elle a encore des dents aussi. Elle a des dents sur la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. Et c'est seulement l'avant de la mandibule et de la mâchoire supérieure qui sont dépourvues de dents et qui a priori avaient un petit bec. Alors est-ce que ça c'est vraiment déjà le bec des tortues qui va se développer après pour couvrir complètement toute la mâchoire et les tortues maintenant n'ont plus de dents, hein, il y a juste un bec corné. Alors est-ce que c'est juste une évolution en parallèle ou est-ce que c'est vraiment les premiers indices de l'évolution du bec chez les tortues? Ça il nous faut encore d'autres indices pour y répondre. En tout cas, à l'heure actuelle, si on doit répondre à cette question, bah, c'est le bec qui apparaît en premier, parce que cette forme, elle a un bec, mais pas de carapace. La carapace, elle apparaîtra un petit peu plus tard.
Merci beaucoup, Jérémy Anquetin, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes paléontologue au Jurassica Museum, qui se trouve à Port-en-Truy, hein, c'est ça ?
En Suisse.
En Suisse. Merci beaucoup à vous, et Axel, à demain.
À demain.
Allez, dans le reste de l'actualité scientifique, la rougeole en forte progression partout en Europe selon un rapport rendu par l'OMS la semaine dernière. Deux fois plus de personnes ont contracté la maladie sur les six premiers mois de 2018 que sur toute l'année 2017. 41 000 cas, 37 morts recensés depuis le début de l'année. Bien que la couverture vaccinale atteint les 88% à l'échelle de l'Europe, l'OMS justement estime qu'elle est encore trop faible. Tout risque d'épidémie majeure serait écarté si 95% des Européens étaient vaccinés. La plus épaisse et la plus ancienne portion de la mer de glace vient de se fissurer en Arctique dans une zone que l'on pensait pourtant protégée. Et c'est la première fois que la banquise se fend dans cette région au nord du Groenland. La faute au réchauffement climatique et plus précisément au record de température cette année, ainsi qu'aux vents violents qui ont soufflé. Début août, la station météorologique de Cap Maurice Jesup a enregistré un record de température de 17 degrés. Et puis pour terminer, les chèvres sont capables de différencier les expressions faciales humaines et elles préfèrent les sourires. C'est une éthologue de l'université de Sao Paulo qui le démontre. Pour cela, elle a proposé à un groupe de 36 chèvres des portions de pâte crue, leur mets préféré. Les assiettes étaient associées à différentes photos d'hommes et de femmes souriants ou agressifs. Et bien sans aucune distinction de sexe, les chèvres se sont spontanément approchées beaucoup plus facilement de tous les visages souriants. Preuve pour la chercheuse que l'intelligence émotionnelle des chèvres domestiques est plus grande que ce qu'on imaginait jusqu'alors. Allez, neuropédagogie, c'est le dossier de l'émission dans un instant.
I want to know.
La voix de Fatoumata Diawara avec Enterini à l'instant.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et bienvenue dans le monde de la neuropédagogie où comment les sciences du cerveau peuvent permettre d'envisager une autre façon d'enseigner. C'est donc le dossier de l'émission cet après-midi pour comprendre comment s'inscrit justement cette discipline dans l'éducation et la psychologie de l'enfant. Olivier Audet, vous êtes justement professeur de psychologie à l'Université Paris-Descartes et directeur de ce laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant du CNRS. Et vous publiez donc l'école du cerveau de Montessori, Freinet et Piaget au sens cognitif. C'est aux éditions Mardaga. Et puis Pascaline Citron, vous êtes directrice du département pédagogie chez Nathan et vous avez donc créé ce réseau Léa.fr. C'est un portail pédagogique et collaboratif qui réunit 95 000 enseignants. Quelle était la vocation exacte de ce portail alors au départ ?
Ben, au départ, j'étais au tout début de ma carrière journaliste en éducation et j'ai fait beaucoup de reportages dans les écoles et je me disais qu'il y avait vraiment une richesse énorme, beaucoup d'idées, beaucoup de créativité dans ces écoles qui remontaient pas forcément. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de verticalité dans la manière dont on avait de s'adresser aux enseignants et que eux-mêmes possédaient beaucoup de richesses. Donc, quand il a été possible, quand les outils numériques ont été suffisamment développés pour créer une communauté d'enseignants, j'ai décidé de les réunir parce qu'ils ont beaucoup de choses à partager, beaucoup de passions à partager, de problèmes à partager. Nous, on a en tant qu'éditeurs des auteurs spécialistes et l'idée était de les réunir, enfin de les faire parler entre eux, mais aussi de leur permettre de poser des questions très précises et d'avoir des réponses utiles de la part de nos auteurs experts en pédagogie.
Justement, à la lumière de ce que vous avez vu au départ en tant que journaliste de l'éducation là sur le terrain, est-ce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui s'aventurent dans finalement de nouvelles pédagogies qu'ils pourraient aussi inventer eux-mêmes d'ailleurs, pourquoi pas ?
Oui. Alors beaucoup le font. Alors certains le font en sachant qu'ils le font et de manière très volontaire parce qu'ils ont étudié, qu'ils ont travaillé la chose. Mais beaucoup aussi intuitivement pour le bien des enfants développent des outils que nous éditeurs ou pédagogues voyons comme novateurs, eux pas forcément. D'ailleurs, quand on leur pose la question, quand on leur demande de nous expliquer les choses, ils disent très modestement que bon, c'est eux qui l'ont inventé et que c'est pas forcément, mais qui au fond sont très riches. Et c'est tout ça que le réseau Léa permet de mettre en avant. On leur donne confiance en fait à ces enseignants et qui peuvent au final devenir de futurs auteurs très très intéressants pour leurs collègues.
Olivier Audet, alors justement avec la neuropédagogie, l'idée c'est de s'appuyer clairement sur la science.
Ah oui, très clairement sur la science, en particulier sur les sciences cognitives et sur la psychologie expérimentale. Oui. Vous savez, vous parliez tout à l'heure de l'évolution des tortues au cours des centaines de millions d'années. Oui. Il y a quand même un scientifique extraordinaire qui, au cours du XXe siècle, a dit « mais intéressons-nous à l'évolution des enfants que nous avons sous les yeux », c'est Jean Piaget, et qui a dit « les scientifiques ont la chance extraordinaire d'avoir un modèle de progrès, un modèle d'épistémologie en construction qui est le développement de l'enfant ». Et Piaget avait déjà eu cette intuition extraordinaire selon laquelle l'intelligence d'un enfant, c'est la forme optimale de l'adaptation biologique, c'est-à-dire comment le cerveau s'adapte à son environnement avec les outils de l'intelligence, les mathématiques, le raisonnement. Cette intuition de Piaget a pu, si vous voulez, se réaliser grâce aux technologies d'imagerie cérébrale. Et moi-même, quand j'ai commencé ma carrière, ces techniques sont survenues. Je me suis dit, il faut absolument poursuivre cette idée jusqu'au bout. L'intelligence et l'apprentissage comme forme optimale de l'adaptation biologique, en observant dans les réseaux de neurones des élèves, grâce à l'imagerie cérébrale, comment ces réseaux se modifient au cours de l'apprentissage.
Ouais. Et à ce moment-là, ça rend... Mais concrètement, comment vous faites ? Vous mettez les élèves dans des machines, alors ?
Oui, vous avez vu dans le livre, j'ai tenu absolument à ce qu'on reproduise des photos de la façon dont on installe l'enfant volontaire. Tout cela est préalablement examiné par des comités d'éthique, donc c'est avec l'accord des parents, l'explication aux enfants. Et moi, j'ai toujours tenu avec mon labo CNRS à ce que ça se fasse dans le cadre de projets pédagogiques avec l'école. Donc avec le recteur d'académie, avec les directeurs d'établissement, avec les professeurs des écoles et les élèves volontaires. Et donc au final, oui, on installe très confortablement l'enfant allongé dans l'IRM qui a été préparé avant à l'école avec des explications, des simulations du tunnel d'IRM en tissu où l'enfant s'installe, s'habitue à l'immobilité. On préenregistre les bruits de l'IRM pour qu'il ne soit pas surpris lorsqu'il sera dans le tunnel.
C'est bruyant.
c'est brillant. Et au final, c'est extraordinaire. Les enfants sont préparés comme des astronautes. Je dis toujours qu'on prépare nos enfants comme Thomas Pesquet avant qu'il n'aille dans l'espace. Et l'enfant est très fier, ainsi que ses parents, d'avoir passé un examen d'IRM. Et nous avons là, à ce moment-là, sous les yeux, c'est-à-dire reconstruit sur ordinateur, une image tridimensionnelle, point par point, au millimètre près, qu'une image toutes les secondes, du cerveau de l'enfant, alors qu'il se trompe, alors qu'il corrige une erreur.
Qu'est-ce qu'il fait dans l'IRM? Qu'est-ce qui se passe? Parce que voilà, il n'est pas seulement allongé, il faut que son cerveau soit sollicité aussi.
On distingue l'IRM anatomique, structural, et l'IRM fonctionnel. L'IRM structural, c'est comme lorsque vous allez, Mathieu, à l'hôpital ou les auditeurs, et qu'on regarde la structure d'un organe. Là, en effet, on ne fait rien. Il n'y a pas de tâche, de travail cognitif. L'IRM fonctionnel, c'est quand le cerveau fonctionne, réfléchit, apprend.
En action.
Voilà, et en action, tout à fait. Et c'est là où vous comprenez que le travail de la psychologie et des sciences humaines est tout à fait lié à ces neurosciences nouvelles, parce qu'il faut concevoir le paradigme, c'est-à-dire la séquence expérimentale, la tâche cognitive, je dirais à la seconde près, que l'enfant va résoudre dans la machine, pour qu'on sache interpréter les images du cerveau ensuite. Et ça, c'est vraiment un champ nouveau qui articule la psychologie expérimentale, les sciences de l'éducation, parce que moi, mon idée, c'est qu'il faut absolument faire cela en partenariat avec les écoles et les professeurs, et les neurosciences elles-mêmes et la biologie la plus fondamentale.
Alors, Olivier Audet, combien d'enfants ont participé à ce type d'expérience pour qu'on puisse en tirer vraiment des enseignements solides?
Alors, dans nos recherches que l'on a réalisées, donc au total, depuis ces premières recherches sur l'enfant réalisées en France en IRM, à la fin des années, enfin autour des années 2010, on a plusieurs centaines d'enfants maintenant. Oui. Ce qui, pour des expériences de ce type, est un échantillon très important, parce que, vous imaginez, chaque mercredi, parce qu'on fait en général ces expérimentations quand les enfants n'ont pas école, nous sommes parvenus à avoir un dispositif assez routinisé pour que 4 enfants puissent être explorés chaque mercredi, chacun d'entre eux durant...
Les mêmes enfants pour avoir un suivi au long cours?
Ah oui, ouais. on fait vraiment... Là, par exemple, on a un projet passionnant soutenu par l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche, qui est terminé sur plusieurs centaines d'enfants qui ont été vus un pré-test initial, un post-test après un mois, alors que chaque jour, à la maison, sur une tablette numérique que l'on avait codée, ils ont exercé un processus cognitif de mémoire ou de ce que j'appelle l'inhibition des automatismes, ce qui est très important. C'est la clé de l'intelligence, être capable de sortir de ces automatismes. Hein. Et on y reviendra. Et on a conçu des petits jeux, ainsi, de telle sorte qu'on étudie avant et après, pré et post-test, les modifications survenues dans le cerveau des enfants sous l'impact d'un jeu pédagogique, numérique, quotidien qu'ils ont fait chaque jour. Donc, le cœur de ce métier est à la fois, je dirais, longitudinal et transversal.
Et donc, il y a des publications scientifiques qui sortent, liées évidemment à ces expériences.
Dans les plus grandes revues américaines. Et moi, je tiens aussi à partager cela avec les enseignants français de francophonie. Et c'est pourquoi on écrit des livres très grand public et on essaye de communiquer. On ne peut pas imaginer que les profs ne suivent pas ce mouvement de recherche en train de se faire. Et comme l'a très bien dit Pascaline Citron, ils sont d'ailleurs curieux et gourmands, en quelque sorte, de neurosciences, dès l'instant où on ne leur impose pas de façon trop top-down.
Justement, Pascaline Citron, il y a un fort intérêt du corps enseignant sur les questions de science aujourd'hui?
Sur les questions sciences en général, forcément, mais sur les neurosciences.
Et sur le cerveau en particulier.
Sur le cerveau, évidemment. C'est vrai que on connaît bien la plupart des organes. On sait en séance de PS, par exemple, comment va fonctionner le cœur si on se met à courir trop vite. On sait expliquer ça aux enfants. Mais le fonctionnement du cerveau, c'était un peu magique jusqu'à certain temps. Et maintenant, ça devient concret. Et c'est quand même là que se passent tous les apprentissages. Donc, un enseignant ne peut pas, à mon avis, être complètement indifférent à ces recherches-là. Après, il peut en avoir peur. Mais être complètement indifférent à ça, non, c'est impossible.
Alors Patrice, ancien instituteur, nous écrit sur franceinter.fr, il nous dit « Depuis des lustres, la pédagogie est l'objet d'affrontements idéologiques, les uns plutôt conservateurs s'en tiennent à la transmission, pendant que les progressistes s'appuient sur le constructivisme. Que nous disent les neurosciences? Construire son savoir ne permet-il pas d'augmenter ses facultés cognitives et son savoir critique ?» demande Patrice.
Oui.
Olivier Audet, pour lui répondre.
Nous sommes aujourd'hui néo-constructivistes, c'est-à-dire Piaget était constructiviste avec une logique de stade, sans doute doute un peu trop rigide. On découvre aujourd'hui la grande plasticité, la vicariance du développement cérébral de l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant apprend à utiliser des chemins neuronaux différents de son cerveau pour apprendre cette flexibilité. Et donc, l'étude du cerveau aujourd'hui, oui, est très constructiviste, c'est-à-dire on cherche à savoir comment l'enfant va construire le nombre, la catégorisation, le raisonnement à travers ses neurones et sous l'impact de la culture, c'est-à-dire de l'école et du professeur qui va l'éveiller, le stimuler et lui apprendre des choses nouvelles. Donc, alors, tout cela reste très constructiviste.
On va écouter la voix de Piaget, justement, puisque vous l'évoquez, hein, ce psychologue suisse qui est décédé en 1980, qui a joué un rôle très important, passionné de sciences naturelles d'ailleurs aussi. On va l'écouter, c'était le 1er mai 1968. Voilà ce qu'il nous dit sur sa façon de concevoir la psychologie et l'éducation des enfants.
Il y a des années que je suis convaincu que dans le développement de l'enfant, il y a un développement spontané, il se crée des possibilités, des capacités d'expérimentation qu'en général l'école n'exploite pas. L'école montre bien des phénomènes physiques aux enfants, mais en général on les montre, c'est pas eux qui les découvrent par des expériences proprement dites. Tandis que là on voit l'enfant qui se pose des problèmes, qui cherche, qui trouve les méthodes pour répondre aux problèmes qui se posent. Il y a une éducation de l'esprit expérimental et de l'esprit scientifique au sens le plus actuel qui me paraît remarquable et à encourager. Ah, la difficulté, c'est qu'il faut bien connaître la psychologie de l'enfant. Plus la formation psychologique est poussée et plus le maître qui désire innover en tenant compte des capacités de ses élèves, c'est pas pour dire que qu'on peut déduire de la psychologie une pédagogie, loin de là, le maître a inventé lui-même ses procédés, mais il sera d'autant plus créateur qu'il est mieux renseigné sur les lois du développement de l'enfant.
Voilà, c'était la voix de Jean Piaget, donc en mai 1968, le 1er mai, hein, pour être tout à fait précis. Pascaline Citron, un commentaire sur ce qu'il vient de dire, et puis aussi pour évoquer son travail, parce qu'on a aujourd'hui du recul par rapport aussi à sa pensée. Hein.
Oui, alors c'est assez émouvant d'entendre ça. C'est vrai que ça rejoint ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire que il précise bien que tout enseignant pour faire progresser l'enfant, pour l'aider à concevoir et structurer son apprentissage, a besoin de savoir comment il apprend, comment on arrive à déchiffrer, à lire. C'est pour tout enseignant, pour tout parent et pour tout enseignant, c'est magique de voir ce moment-là, l'enfant qui devant toutes ses lettres finit par trouver du sens. Donc il y a eu ça pour la lecture, mais pour tout apprentissage, il y a une vraie importance à connaître ce qui se passe dans le cerveau, pour ne serait-ce que pour éviter contourner les difficultés que peuvent présenter les enfants. Donc Piaget, c'est vraiment Olivier le disait, c'est quelqu'un de très fondateur pour nous. Alors après, il y a les néo-piagétiens. On sait que sa théorie du développement n'était pas
c'est ça. Alors pas complètement en deux juste. Mots, Olivier Houdet, pour dire quel recul on a pris justement par rapport à sa théorie, à Piaget, avec le modèle de l'escalier. Qui a changé,
voilà,
évidemment.
Il avait une vision incrémentale du développement, c'est-à-dire des grands stades qui traversaient l'enfant. Ouais. Bien sûr, il y a un aspect du progrès qui est incrémental, mais la complexité des comportements et du fonctionnement du cerveau de l'enfant nous rapproche davantage aujourd'hui de ce qu'on appelle, comme en physique d'ailleurs, des modèles dynamiques et non linéaires, à savoir que les enfants à tout âge ont plusieurs modes de pensée, donc plusieurs réseaux neuronaux dans leur cerveau qui se coactivent. Il y a une question de vitesse de l'un par rapport à l'autre, et quelquefois l'enfant doit parvenir à inhiber, bloquer grâce à son cortex préfrontal le réseau le plus rapide et le plus automatique pour précisément apprendre, sortir de ces automatismes. Et donc on a, disons, une approche moins linéaire que Piaget du développement.
Allez, on se retrouve dans un instant. Beaucoup de messages pour vous arrivent sur franceinter.fr.
Viens Victor, viens.
Je voudrais du lait.
Voilà Madame Guérin, voilà du lait. Non Victor, non, faut le demander. Madame Guérin, je voudrais du lait.
Lait. Lait. Lait. C'est très bien, Victor.
Un peu plus de minutes avant jamais. Ralenti, ralenti, on est trop près. Dernier mot sur la plage d'Acapulco. Les deux sous le même kimono. Un peu plus de minutes avant l'avion. dessine mon quad sur le sable. Tu sécheras tes larmes dans l'air climatisé. Ultime bain, noie ton chagrin. Je ne suis pas loin.
Et c'est Flavien Berger avec Brutalisme à l'instant.
La tête au carré sur France Inter.
Voilà, mes invités Olivier Houdet et Pascaline Citron pour parler donc de la neuropédagogie avec un livre, Olivier Houdet, qui sort donc chez Mardaga, qui s'appelle L'école du cerveau de Montessori, Freinet et Piaget aux sciences cognitives. Donc il y a effectivement tous les pionniers hein, que vous évoquez avant d'entrer dans le vif du sujet aujourd'hui pour évidemment tout ce qui concerne les enseignants. Et puis des questions et des réponses sur le cerveau également chez Nathan, que vous signez avec Grégoire Borst, Olivier Houdet. Ça c'est pour justement
les enfants.
Laisser la porte ouverte sur le cerveau et la connaissance dans ce domaine.
C'est un album dès 7 ans avec des doubles pages illustrées et très scientifique, mais conçu pour les enfants.
Alors, il y a beaucoup de messages des auditeurs. Je voudrais vraiment vous donner ces messages qui arrivent sur franceinter.fr. Il y a Marie qui nous dit « Le ministre Blanquer, lui, pense que seules les neurosciences sont la solution. Or, les enfants ne sont pas des mécaniques de voiture. Chaque élève apprend avec son cerveau qui a des invariants, certes, mais aussi avec son héritage affectif, environnemental. Il n'y a pas une recette pour apprendre. Si les neurosciences sont intéressantes pour la pédagogie ou la didactique de l'enseignement, elles ne doivent pas être exclusives. » Et on a le sentiment, Pascaline Citron, qu'il faut beaucoup rassurer hein, les enseignants dans ce domaine. Hein.
En effet, je comprends très bien ce que dit Marie. C'est juste et on n'a jamais dit, ni Olivier, ni moi, ni quiconque, que les neurosciences étaient la solution à tout. Il est évident que ce n'est pas la solution à tout. En revanche, on ne peut pas fermer les yeux, boucher les oreilles et se dire que ça n'existe pas. Ça apporte tellement d'informations sur la manière dont l'enfant apprend qu'il faut il faut en tenir compte. En revanche, les pédagogues sont là pour justement récupérer toute cette matière et toutes ces informations qu'on a et en faire quelque chose et créer des méthodes pour justement laisser toute liberté aux enseignants de l'utiliser au mieux. Il n'y a pas une solution. Mais en revanche, c'est un outil indispensable.
Olivier Oudé, dès le début de votre ouvrage, d'ailleurs, vous dites que l'engouement pour la neuroéducation est tel qu'il faut déjà calmer les ardeurs. un engouement, mais donc aussi un sujet de controverse. Hein. Toutes les nouvelles formes de pédagogie, finalement, ont toujours suscité un petit peu le chaos dans le domaine de l'enseignement.
Oui, il est logique, tout à fait logique qu'il y ait des débats. Moi, je suis précisément, comme j'ai dit tout à l'heure au début, ne pas imposer les neurosciences d'en haut, pas trop de verticalité. Mmh. Bien sûr, on doit se réjouir que le ministre Blanquer suggère de s'intéresser au cerveau des élèves. C'est quand même la moindre des choses que l'on doit faire à l'égard des élèves dont c'est l'outil quotidien d'apprentissage. Mais précisément chez Nathan, on vient de terminer une petite bible du cerveau qui va paraître dans quelques jours, le cerveau et les apprentissages. Et je vous indique simplement la dernière phrase de l'introduction que j'ai rédigée, qui décrit tous les chapitres scientifiques, les focus qu'il y a dans ce livre de Jean-Pierre Changeux, grand spécialisé neurosciences, mais qui a expliqué le cerveau pour les professeurs, de Antonio Damasio sur le rôle des émotions et des sentiments dans l'éducation. Vous voyez déjà que c'est large, les neurosciences. Ça va jusqu'aux émotions et aux sentiments. Mais à la fin de cette introduction, je dis, où j'écris, car la pédagogie est un art avec un grand A, qui doit certes s'appuyer sur des connaissances scientifiques actualisées, mais elle reste un art. À vous d'inventer la suite, ouais, au professeur.
D'ailleurs, vous dites, le livre, avant tout, c'est un manifeste pour que les choses aillent du laboratoire à l'école et dans les deux sens.
Tout à fait, d'une part.
Ça vous y tenait énormément.
Oui, cette réciprocité, pour moi, l'expression clé, c'est aller-retour du labo à l'école.
C'est ça.
Mais nous, laboratoire scientifique, on le fait avec notre réseau d'écoles partenaires. Mais ce qui nous manquait, c'est là où Léa.fr, qu'a inventé Pascaline Citron, est extraordinaire, c'était le transfert à plus grande échelle et la science participative avec un large réseau en France et dans toute la francophonie.
Et donc là, ça vient du terrain. Hein,
voilà, ce changement d'échelle est capital parce qu'il faut que ces neurosciences et ces sciences cognitives soient participatives avec le monde de l'école.
Alors, sur Léa.fr, donc ce portail pédagogique, il est avant tout collaboratif. 95 000 enseignants se sont connectés et finalement vous donnent aussi leur vision, heureusement, hein, parce que c'est quand même eux qui sont aux avant-postes.
Plus que leur vision, ils expérimentent, parce que comme va le décrire Pascaline, on peut faire de l'expérimentation scientifique avec eux en classe.
Exactement. Pour nous, c'est un formidable creuset pour connaître justement ce milieu d'enseignants. On le connaît un peu. Enfin, moi, je le connaissais par mon métier de journaliste d'éducation, mais pour bien les connaître, c'est bien de les voir échanger, partager. Quand ils ont justement des problèmes, ils peuvent très bien venir en commentaire nous dire mais les neurosciences ne changent pas tout, alors que justement sur Léa.fr, précisément, on s'engage dans cette réflexion. Mais c'est l'occasion de discuter, ça c'est important. Et comme le disait Olivier très justement, le côté collaboratif, il est surtout important dans l'idée d'associer des experts avec toutes ces personnes sur le terrain, dans la francophonie et en France, qui ont envie de progresser ensemble, qui ont les mêmes questions et qui ont envie d'échanger avec des experts. Donc, on a des groupes de travail collaboratifs sur Léa qui sont animés par des auteurs experts et qui décident de tester vraiment toutes leurs idées, toutes leurs méthodes avec les enseignants pour voir ce que ça donne. Et donc, l'année dernière, on a passé un cran dans ces groupes de travail en s'associant au laboratoire d'Olivier Houdet et Grégoire Borst, le LabSidé, pour faire de la vraie recherche collaborative avec les enseignants.
Ah tiens, un exemple de Florian, qui est professeur de physique, il nous dit ceci: je fais souvent des tours de magie à mes élèves dans mes cours de physique, niveau lycée, pour aborder différentes notions scientifiques de manière ludique et pédagogique. Ça suscite une plus grande attention chez les élèves, dit-il, avec une meilleure mémorisation. Est-ce que ça peut s'apparenter, demande-t-il, à la neuropédagogie?
Oui, bien sûr. C'est une très bonne idée, la magie. Alors, si on réfléchit un instant, pourquoi est-on surpris par un tour de magie ? Parce que cela transgresse une propriété du réel. Réel dont nous avions construit les invariants dans notre cerveau. La première brique d'intelligence que le bébé construit dans son cerveau, c'est la permanence de l'objet. Si je prends cette bouteille d'eau et que je la fais disparaître derrière moi, derrière mon dos, il est évident pour vous, Mathieu, qu'elle continue d'exister. Vous inférez la permanence de l'objet. Le jeune enfant n'a pas encore cette notion. Il a pu démontrer qu'en faisant des petits tours de magie devant le bébé, en faisant apparaître, disparaître des objets, il était très tôt surpris par cette disparition. On peut le faire pour des nombres. On a pu montrer ainsi à des bébés de 4-5 mois que si on montre sous leurs yeux dans un petit théâtre avec des marionnettes, je le décris dans le livre, 1 plus 1 égale 2, ils ne sont pas surpris. Mais si vous faites 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire un tour de magie, ils sont surpris. Et 1 plus 1 égale 1, ils sont surpris aussi. Et cette surprise visuelle se mesure grâce à un système vidéo relié à un ordinateur, relié à l'enregistrement de l'activité cérébrale. Il y a un nerf de la surprise dans le cerveau dont on voit qu'il s'éveille chez les bébés alors qu'ils ne parlent pas encore, uniquement quand on leur présente, par tour de magie, un résultat arithmétique correct ou incorrect. Donc, pourquoi sont-ils surpris? Parce que un principe de la construction du réel est transgressé. Et encore un mot, Piaget qu'on écoutait tout à l'heure, toute sa théorie a été d'étudier la construction du réel chez l'enfant, c'est-à-dire la physique, les mathématiques. Eh bien, la magie, en fait, elle transgresse quand une colombe apparaît ou disparaît d'un chapeau, c'est cette même permanence de l'objet que le bébé découvre qui est transgressée. Ou une dame qui est coupée, ou un monsieur en morceaux dans une boîte, c'est l'unité de l'objet, c'est-à-dire du corps qui est transgressé. Et c'est donc génial, oui, d'utiliser la magie parce qu'elle suscite la surprise dans le cerveau.
Alors, justement, sur les neurosciences à l'école, un reportage de TF1, ça c'était au mois de mars, donc il y a quelques mois à peine. On va écouter ce reportage et on le commente juste après ensemble.
Un rat et un loup.
Dans cette classe de Marseille, pour apprendre à lire, on joue aux jeux vidéo. Pendant 15 minutes, casque sur les oreilles, les enfants sont guidés par un avatar virtuel.
Le petit avoir 3 étoiles.
À Marseille, 9 écoles ont été choisies pour cette expérimentation. Dans celle-ci, les classes de CP ont déjà été dédoublées. Les tablettes sont un outil complémentaire.
Ah bon, allez, Ria, tu nous le fais. Ça permet de me concentrer sur l'autre moitié de la classe. Donc c'est quasiment du travail individualisé sur une heure de temps. Dans ce temps-là, les autres répètent des acquis sur les tablettes.
Car la répétition est essentielle dans l'apprentissage de la lecture. C'est ce que montrent les travaux des neurosciences. Dans ce laboratoire, ces scientifiques étudient le fonctionnement de l'intelligence.
On a constaté que l'enfant, sur une année de CP, lit finalement pas plus que 15 heures sur toute l'année. Et pour le français, c'est pas assez. C'est peut-être assez pour le finnois, pour l'italien, mais pour le français, il faut au moins 30-40 heures où l'enfant est vraiment dans la lecture.
L'expérimentation sera évaluée en fin d'année avant d'être étendue à toute la France. Ici, l'instituteur en est certain, avant l'été, les enfants liront tous. Sans exception.
Pascal Nicitron, un commentaire sur.
Oui, bah justement, c'est assez, typique. Là, c'est une expérience qui se fait, on l'a vu dans quelques classes à Marseille. Sur la lecture, il y a beaucoup d'expérimentations qui ont été faites de cette manière-là. Là, l'intérêt de ce qu'on a pu faire justement sur Léa, et c'est bien d'entendre ce qui se passe là, c'est de faire en sorte que beaucoup de classes puissent bénéficier de cette recherche-là.
Alors Léa, c'est Léa.fr.
Léa.fr, voilà. C'est qu'il n'y ait plus juste quelques classes qui soient sollicitées par des labos en présentiel avec des chercheurs, mais qu'on puisse diffuser tout ça à grande échelle et que les enseignants eux-mêmes deviennent presque des co-chercheurs, enfin en tout cas des adjoints des chercheurs pour faire progresser comme ça tous les élèves, parce que là l'enseignant le dit, il est persuadé que ça va marcher, il est persuadé que les élèves vont lire beaucoup plus vite grâce à tout ça. C'est quand même dommage de limiter tout ça à quelques classes.
Olivier Houdet, la concentration, la mémorisation, et vous disiez tout à l'heure au cœur de tout cela, l'inhibition, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, si vous, les physiologistes, depuis le 19e siècle, savent qu'il y a dans le cerveau autant de connexions et de neurones inhibiteurs qu'activateurs. Simplement, les psychologues, et Piaget notamment, l'ont oublié. C'est-à-dire qu'on ne parle plus que de construction de structures, d'activation de structures. Or, ce qu'il y a de plus difficile à faire pour le cerveau et l'intelligence, c'est d'inhiber ces automatismes. Précisément, ces connexions qui vont trop vite ou qui correspondent trop à des choses répétées antérieurement, qui sont vraies bien sûr, mais qui ne rendent pas créatifs ou qui ne permettent pas de découvrir des solutions nouvelles dans des situations nouvelles. Et cette inhibition dont je parle, dont j'ai fait en effet ma théorie, elle est essentielle. Et en trois mots, si vous voulez, il y a trois mots clés dans le cerveau: heuristique, algorithme et inhibition. Les heuristiques sont des stratégies et donc des réseaux neuronaux très rapides, très efficaces, qui marchent très bien, très souvent, mais pas toujours. Les algorithmes sont plus lents, demandent un effort cognitif, sont analytiques, mais conduisent toujours à la solution exacte. Le problème est que dans le cerveau de l'enfant, comme encore dans celui de l'adulte, les heuristiques sont dominantes, nos algorithmes sont rarement appliqués, et vous comprenez qu'il faut donc un mécanisme d'arbitrage, et c'est cela le rôle de cette inhibition qui a en quelque sorte un lobe, un siège dans le cerveau qui est le cortex préfrontal à l'avant, qui nous permet précisément, avec des messages inhibiteurs ou activateurs envoyés via des neurones à axones longs, de 10 cm quelquefois dans le cerveau, d'envoyer des ordres inhibiteurs ou activateurs pour faire en quelque sorte taire ou parler certains réseaux de neurones par rapport à d'autres. Et si vous réfléchissez en classe, c'est ce qui se passe tout le temps. L'enfant peut se tromper parce que il va être tenté par une réponse parfois automatique, alors qu'il devrait utiliser une règle, un algorithme qu'il connaît, qu'on lui a appris la veille, mais qu'il ne parvient pas ou qu'il ne comprend pas. Et c'est ce qu'on appelle la métacognition, qu'il ne comprend pas qu'il doit utiliser à ce moment-là.
Bon, et avec tout ça, on fait de l'éducation pour les enfants. Ça paraît très compliqué, mais c'est plus simple finalement sur le terrain. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette discussion autour de la neuropédagogie et toujours les messages sur le site de la Tête au Carré, franceinter.fr.
Je coule, je fuis, ça n'arrête pas. Ce dégât des eaux qui roule sur mes joues. Oh, je crois qu'il faudrait des heures pour arranger cela. Faut tout refaire l'intérieur de moi. Trouver près du cœur le tuyau percé, fermer des douleurs le robinet. Aller au cadastre, voir dans le registre le point de départ du désastre, l'origine du sinistre. Je coule, je fuis, ça n'arrête pas. Faut tout refaire l'intérieur de moi. Je coule, je perds pied, je me noie. Cette mer de sanglots s'enroule, j'ai beau agiter les bras. Il faudrait des heures pour atteindre le rivage. Je suis un skipper en plein naufrage. Un petit baigneur largué sans bouée. Les maîtres nageurs m'ont bien lâché. Bien sûr que j'ai peur, je ne vois plus la plage. Mais où sont passés les plongeurs, les canots de sauvetage? Je coule, je perds pied, je me noie. Faut tout refaire l'intérieur de moi.
Cool, c'était la voix d'Alex Baupin à l'instant.
La Tête au Carré sur France Inter.
Et nous allons écouter un document d'archives de l'année 1950 autour justement de Madame Montessori.
Dans la série La formation de l'enfant, Madame Jean-Jacques Bernard va nous parler de la méthode pédagogique Montessori.
Ce n'est plus une nouveauté que de penser et de dire que l'éducation telle qu'elle a été conçue jusqu'alors nécessite une révision complète des méthodes. Parmi les découvertes les plus importantes de Madame Montessori sur la psychologie enfantine est celle de l'esprit absorbant de l'enfant. Son type d'esprit est différent du nôtre. Son type d'esprit absorbe la connaissance. À 3 ans, il est déjà développé. Il peut aller à l'école. Ses acquisitions sont telles que nous pouvons dire qu'il est déjà un vieil homme. Il s'agit donc de créer une école dans laquelle il puisse absorber toute la culture qui s'y trouve.
Voilà, ça c'était en 1950, l'Université Radiophonique Internationale, Olivier Houdet, un son d'archives aussi, puisque vous incitez beaucoup hein, sur ceux qui ont construit les bases de nouvelles pédagogies, et Montessori en fait partie.
Oui, vous disiez tout à l'heure que ce livre, L'école du cerveau, est un manifeste. Ce l'est dans ce sens-là, parce qu'on a trop lu dans la presse ou entendu à la radio l'année dernière, notamment avec la mise en place du Conseil scientifique de l'éducation nationale, une opposition entre les grands pédagogues classiques, dont Montessori, Freinet ou De Croly en Belgique, et les sciences cognitives et neurosciences actuelles. Et j'ai précisément voulu écrire ce livre pour dire « c'est tout le contraire ». S'intéresser au cerveau de l'élève, à l'âme de l'élève aujourd'hui, c'est comme l'a voulu Montessori, qui était quand même médecin, qui disait « mais comment se fait-il qu'on se soit si peu intéressé à l'âme de l'enfant et qu'on ne s'intéresse à l'enfant que quand il est malade, disons à son âme ou à son cerveau. Et donc ils avaient tout compris. Piaget par son constructivisme aussi, même si c'est enfermé dans un modèle de stade qu'on a critiqué tout à l'heure, et que d'ailleurs Montessori déjà critiquait. Vous avez entendu, elle dit l'enfant qui arrive à l'école est un vieillard. C'est oui. extraordinaire.
À
elle,
3 ans.
Elle, elle pressentait toutes les découvertes faites aujourd'hui sur les compétences cognitives précoces des bébés. Je sais que vous avez fait une émission sur ce sujet en juin. C'est ça qu'elle voulait dire. L'enfant arrive à l'école déjà avec toute une vie cognitive, oui. sociale, émotionnelle derrière lui. Faut pas tout lui apprendre. Faut au contraire, ce que j'évoquais tout à l'heure, laisser développer ses heuristiques, certains algorithmes cognitifs, comme ses capacités numériques de dénombrement qu'ont déjà les bébés ou de raisonnement bien avant le langage. Et l'école doit considérer que l'enfant doit réactiver, surtout apprendre à apprendre, c'est-à-dire à utiliser son cerveau de telle ou telle façon à tel moment. C'est pourquoi il ne faut pas non plus, on parle beaucoup des professeurs et c'est essentiel, y compris leur formation initiale dans les ESP, mais il ne faut pas non plus négliger l'idée qu'on puisse directement intéresser les enfants eux-mêmes à ces découvertes de neurosciences. La main à la pâte à l'Académie des sciences le fait pour la physique, pour les sciences de l'univers. Pourquoi ne pas le faire pour les sciences du cerveau ? Finalement, un enfant, à la fin de l'école primaire, il connaît à peu près tout sur son système digestif, dans les moindres détails, et rien sur son cerveau.
Pascaline Citron, il y a beaucoup de messages des auditeurs qui nous rejoignent. Il y a Anne-Fleur qui nous dit, enseignante en CM, je me lance justement cette année dans la méthode de français de Françoise Picot en utilisant votre site léa.fr ainsi que la méthode heuristique des mathématiques de Nicolas Pinel. Cette méthode basée sur la manipulation vient d'être mise à jour par son créateur et va changer la façon d'aborder les mathématiques dans de très nombreuses écoles à la rentrée. C'est un véritable phénomène dans le monde enseignant. Vraiment ?
Alors un phénomène, après tout est relatif, mais il est vrai que, bon, en tout cas pour ce qui est de Françoise Picot par exemple, elle a grâce au réseau Léa justement sorti la première méthode collaborative autour de la grammaire, c'est-à-dire qu'elle manipule vraiment la grammaire, elle rend l'enfant actif de ses apprentissages, c'est-à-dire que c'est l'enfant qui va découvrir en manipulant les mots les erreurs ou les particularités grammaticales et les ayant découvertes lui-même. Il va forcément mieux les retenir, mieux les appliquer, mieux les comprendre, parce que la grammaire française est quand même compliquée. Et donc Françoise a pu tester, et l'auditrice justement a dû participer sur Léa à tout ça, elle a pu tester tout ça dans les classes, dans de nombreuses classes, ce qui fait que le résultat est complètement adapté. Et ça crée un peu un phénomène, c'est-à-dire que chez Nathan, les ouvrages de Françoise Picot, du coup, sont vraiment de vrais best-sellers, parce que justement, les enseignants se le sont accaparés volontairement, ça descend pas, c'est pas une oucase, c'est eux qui ont décidé que ça fonctionnait et qui ont envie de l'appliquer. Pareil certainement pour Nicolas Pinel.
Olivier Houdet, en 2016, on pouvait lire dans Le Monde des idées ce titre « Neuroéducation, pourquoi ça ne prend pas ? Mieux apprendre à lire ou à compter grâce au progrès des neurosciences, c'est possible, mais concrètement, comment passer de la blouse blanche au tableau noir ?» Alors, quel est l'état des lieux quand même aujourd'hui de toutes ces initiatives des neurosciences à l'école, concrètement ? Parce qu'on a beaucoup parlé de la théorie, mais dans la pratique, est-ce que ça a vraiment réussi à trouver sa place ?
La difficulté, on l'évoquait tout à l'heure, c'est le changement d'échelle. C'est-à-dire, nous, les écoles partenaires avec lesquelles on travaille, c'est-à-dire quelques dizaines de classes et donc des centaines d'enfants, ça marche très bien. Non seulement ils sont heureux de faire ces expériences, ils se préparent vraiment très minutieusement pour passer dans l'IRM, ils nous envoient, nous en avons
encore. Oui, mais est-ce qu'à l'école on apprend mieux ? Est-ce qu'on fait des progrès sensibles par rapport à... C'est ça qui m'intéresse maintenant.
C'est la suite du raisonnement. Pour réellement le tester, on est scientifique, il faut des statistiques, il faut du chiffre, il faut des grands échantillons. Il faut donc un outil de test à grande échelle. Et depuis la rentrée, donc, et à mon avis, c'est une observation certaine, c'était la première opération de ce type lancée en septembre 2017 qu'on reconduit cette année avec Léa.fr. On a lancé une grande expérimentation où nous avons à peu près 3000 élèves qui ont participé avec pré-test, post-test, groupe expérimental, groupe contrôle. Il a fallu faire comprendre aux professeurs qu'il fallait un groupe contrôle, c'est-à-dire des élèves chez qui on n'allait pas entraîner.
Donc la méthode scientifique, la vraie méthode scientifique. Alors les résultats, il nous reste une minute, Olivier Houdet.
Les résultats sont dans le chapitre que vous trouverez dans...
Nos auditeurs...
On a des résultats superbes, c'est-à-dire que 10 minutes d'entraînement quotidien, par exemple, à ce processus d'inhibition des automatismes, améliore très nettement dans diverses tâches les capacités d'intelligence et donc de l'enfant à sortir de ses automatismes. Et c'est un type d'apprentissage qui se faisait éventuellement de façon anecdotique, mais pas de façon systématique, et appuyé par des découvertes sur les lois du cerveau au laboratoire.
Pascaline Citron, allez, pour terminer, la plus grande avancée, en tout cas selon vous, grâce à l'apport des neurosciences. Ce serait quoi votre œil là de journaliste, hein, vous qui observez quand même ce qui se passe depuis plusieurs années maintenant?
Moi, je pense que c'est un regard différent sur l'enfant. C'est-à-dire que les enseignants ont maintenant en main beaucoup de remarques, de découvertes qui leur permettent de mieux comprendre l'enfant et d'être beaucoup plus bienveillant avec lui. Parce que ce qu'apporte aussi l'inhibition, c'est un nouveau statut de l'erreur. Et l'enfant, oui. L'enfant peut se tromper, mais pas forcément parce qu'il n'a pas travaillé, pas forcément parce qu'il n'en est pas capable, parfois juste parce qu'il n'a pas su inhiber. Et ce regard bienveillant et compréhensif de l'enseignant sur l'enfant, je pense que c'est ce qui est le plus important.
Donc il faut apprendre à inhiber, si je comprends
voilà,
bien.
Voilà, il faut apprendre à inhiber.
Ça s'appelle L'école du cerveau, c'est chez Mardaga. Et puis également Le cerveau et les apprentissages. Ça va sortir dans quelques jours
le
chez Nathan.
Le 6 septembre.
Ce sont des repères pédagogiques, justement, autour du cerveau. Et puis pour les enfants, questions-réponses sur le cerveau, toujours chez Nathan. Merci beaucoup à tous les deux.